ce matin à vous raconter l'histoire d'un couple, et même d'une crise de couple. L'objet de leur discorde n'est ni la jalousie, ni la possessivité, ni le partage des tâches ménagères. Non, l'objet de leur discorde est un lombricomposteur. Elle lui dit qu'elle n'en peut plus, que ça pue, qu'elle n'a plus envie de vivre avec des vers de terre. Il prend en plus une place de dingue, ce lombricomposteur, dans leur T2 en centre-ville. Elle le traite de bobo, lui rappelle qu'il prend l'avion 3 fois par an pour son boulot ou pour des week-ends avec ses potes. Elle lui rappelle même qu'elle l'a connu hygiéniste et hypochondriaque. Lui d'abord, il est un peu vexé. Hygiéniste et hypochondriaque, c'est pas hyper sexy, mais il contre-attaque. C'est vrai, mais j'ai changé. Et on doit tous changer si on ne veut pas crever de notre hygiénisme et de notre peur du vivant. Tu vois, quand je vois ce lombricomposteur, je pense que la vie, ça change de forme et que quand ça moisit, ça donne naissance à autre chose. Mais je te dis que ça pue. En plus, ça sert à rien. Tu ne fais rien de ton jus de compost à part un peu d'engrais pour nos 3 fleurs en pot. Oui, peut-être, mais c'est déjà ça. On participe au cycle de la vie et en plus, on réduit le volume de nos poubelles. D'ailleurs, je t'annonce un truc. Désormais, ce ne sont plus seulement nos épluchures et nos coquilles d'œufs que je vais donner aux vers de terre, mais aussi tous les résidus de nos propres corps, si tu vois ce que je veux dire. Mais t'es malade! Je te préférais encore flipper du Covid comme un petit vieux que complètement perché avec tes lombrics. Mais vis avec eux si tu veux. Moi, je me casse. Finalement, c'est peut-être en fait une crise de jalousie. Tu sais, reprend-il, grâce à ce lombricomposteur dans notre appartement, nous avons à la maison un objet chamanique. Le recyclage de nos déchets végétaux nous permet d'entretenir des relations de réciprocité avec le vivant, comme dans le chamanisme traditionnel, où on s'assure toujours que l'énergie prise à la forêt retourne à la forêt. Voilà pourquoi, je te le dis maintenant, je suis compostiste. Je pense qu'il faut arrêter de nous voir comme une espèce à part et enfin nous mélanger aux autres êtres vivants. Il est temps maintenant et le lombricomposteur n'est que le début. Elle le regarde et finalement, elle le trouve pas mal, son petit chaman. Pour en parler ce matin, de notre fascination pour le pourri et de toutes les promesses qu'il offre d'une vie régénérée, j'ai le plaisir de recevoir une philosophe et journaliste, rédactrice en chef de Philosophie Magazine et de Philonomiste, autrice d'un livre troublant aux éditions du Seuil, Fermentation, sous-titré Kéfir, compost et bactéries, pourquoi le moisi nous fascine. Anne-Sophie Moreau nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon pour nous aider à réfléchir à cette belle question, de quoi le moisi est-il la promesse ?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Anne-Sophie Moreau.
Bonjour.
Alors merci de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon. On va voir qu'on va pas du tout être sous celui de Platon, là, ça va être tout à fait autre chose. Plutôt celui de Nietzsche, par exemple. J'ai entre les mains votre livre. Alors d'abord, il est très beau. Il est vert, avec plein de couleurs, il est au seuil. Et on voit la vie comme ça qui se régénère sur la couverture. Et vous avez fait une enquête philosophique passionnante, mais aussi journalistique, car c'est un peu votre patte, vous et tous vos amis de Philosophie Magazine. Vous êtes autant philosophe que journaliste, bravo, je trouve ça très fort. Et là, dans cette enquête, vous commencez par faire un état des lieux. C'est-à-dire qu'on s'est mis à être amoureux de tous les microbes, de toutes les bactéries, de tout ce qui moisit, de tout ce qui pourrit. Et d'où ça vient ?
Oui. Alors, en réalité, j'ai pas écrit un livre sur la fermentation à proprement dit, même si évidemment ça fait partie du sujet, mais sur le regain d'intérêt ou bien l'intérêt nouveau pour les micro-organismes, pour le dire, pour employer le terme technique, les microbes, pour employer le terme plus vulgaire, c'est-à-dire les bactéries, les levures, les micro-champignons, tout ce micro-vivant que, par le passé, nous avons eu tendance à considérer comme dégoûtant, repoussant, qui nous a toujours révulsé. Et je me suis rendu compte, alors au départ, je me suis intéressée à la fermentation alimentaire, qui est un petit peu, on va dire, la face émergée de l'iceberg. J'étais dans un aéroport après un week-end arrosé à Berlin où je vivais à l'époque et j'avais
disons-le clairement une grosse gueule de bois tombez sur un kombucha.
Et là, je tombe sur une bouteille de kombucha à la buvette de l'aéroport. Première question que je me pose, c'est je me dis pourquoi est-ce que j'y trouve du kombucha et non pas du coca, du Fanta, vous voyez toutes ces boissons commerciales.
Et surtout, vous décrivez très bien que l'aéroport, il est plein d'hygiénisme, il est aseptisé, tout est blanc, tout est propre.
Oui.
Et c'est un peu dissonant.
Bien sûr. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on vend cette boisson qui est présentée comme une boisson vivante, mousseuse, visqueuse. Et le kombucha, c'est le résultat d'une symbiose entre bactéries et levures. Et il se trouve qu'en parallèle, je discutais avec un ami par message qui travaillait à la mairie de Paris a généralisé la pratique du compost dans la ville. Et je me suis interrogée, je me suis demandé ce que ça voulait dire, le fait finalement qu'on renoue avec les microbes, les bactéries, et même avec des formes de dégénérescence, de pourri, voire de putréfaction, comme le compost. Et qu'est-ce que ça voulait dire de nous ? Est-ce que ça veut dire que nous sommes tous pourris, un peu en train, que nous sommes parce que notre société est vieillissante, que nous nous imaginons être décadents, nous avons tendance à fantasmer la fin de la civilisation européenne. Est-ce que cela signifie que nous cherchons finalement à apprivoiser la dégénérescence par une forme de mimétisme, ou bien est-ce que cela signifie que nous cherchons à puiser là-dedans une forme de régénération profonde et de nos corps et de nos entrailles avec le microbiote et de nos villes, de notre civilisation, de notre société entière.
Excellent. Alors c'est là qu'on comprend votre démarche. On voit bien enquête journalistique, état des lieux et puis problématisation philosophique. Est-ce que cette fascination pour le moisi révèle quelque chose comme une décadence de civilisation ou alors une fascination pour ce qui nous arrive? Ou alors, et c'est ça qui est intéressant, la promesse d'une régénération et peut-être d'une compréhension du véritable mécanisme de métamorphose inhérent à tout vivant.
Oui, je me suis rendu compte en discutant avec des gens qui pratiquaient la fermentation, parce que la fermentation, elle se pratique déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se pratique dans tous les milieux. Voilà, parce qu'au début, moi, je me suis dit, c'est quelque chose, c'est un truc de bobo parisien ou de berlinois branché. Mais non, vous avez des gens qui font du pain au levain, du kéfir, dans toute la France. On retrouve la pratique des légumes bocaux.
Les choucroutes aussi.
La choucroute, toutes choses ancestrales qu'on a toujours faites. Mais disons, dont on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on les retrouve aujourd'hui dans un monde dans une société aseptisée où l'hygiène règne et où l'on connaît à la fois les boîtes de conserve, les congélateurs, etc. A priori, on n'en a pas besoin.
Très bonne question.
Et je me suis interrogée sur ce paradoxe et je me suis rendu compte en discutant avec ces gens, par exemple, que souvent les gens parlaient de leur souche de levain ou de leur grain de kéfir, un petit peu comme si c'était des membres de leur famille. Vous voyez, les gens donnent un nom à leur levain.
Non, je vois pas bien.
dans les pays britanniques, par exemple. Vous pouvez embaucher un sordo-sitter, c'est-à-dire l'équivalent d'un baby-sitter pour le vin, pour soigner votre levain lorsque vous êtes absent. Et alors, il m'a semblé déjà d'une part que ça signifiait qu'on était capable de développer une forme d'empathie avec des formes de vivants très différents de nous, invisibles, qui n'ont pas de visage. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on est en train finalement de sortir de ce qu'on pourrait appeler l'écologie du mignon. Pendant longtemps, on s'est intéressé aux pandas, aux dauphins, à des animaux visibles, mignons, qui ont un visage comme nous. Et là, on est capable de développer une empathie pour des formes...
C'est un peu fort.
Oui, si vous le soignez, si vous tenez à lui, des formes d'empathie pour des formes du vivant qui, avant, nous semblaient repoussantes, d'une part. Et je me suis dit, en y réfléchissant, que c'était aussi comme si on était en train de, finalement, d'essayer de soigner une forme, de cultiver une forme de matrice de la vie dans un monde où nous considérons, à juste titre, que nous contribuons, que nous avons tendance plutôt à contribuer à éradiquer le vivant.
Et à nous penser supérieurs.
Bien sûr.
Et à ne pas vouloir nous mélanger.
Et à nous comporter comme maîtres et possesseurs de la nature, bien sûr.
Alors, je vais arrêter de vous interrompre, mais c'est parce que je trouve ça passionnant. Et c'est la méthode entre profs de philo, on se comprend. J'ai trois questions. Première question, est-ce que le kombucha que vous avez bu a soigné votre gueule de bois?
Ça n'a pas suffi. Mais il paraîtrait que les aliments fermentés sont bons pour notre intestin, pour ce qu'on appelle notre microbiote.
La bière est très fermentée.
Oui, alors vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez lu Le charme discret de l'intestin, par exemple de Julie Anders, qui avait eu un succès fou, que nous sommes peuplés de milliards de bactéries. Nos microbiotes, c'est à la fois nos microbiote intestinal, le microbiote cutané, nous avons plusieurs microbiotes, et le nombre de bactéries excéderait même notre nombre de globules blancs, c'est-à-dire que finalement, nous sommes davantage bactéries qu'humains. C'est une question assez vertigineuse du point de vue de l'identité humaine.
Ouais. J'ai une deuxième question qui est passionnante à la lecture de votre livre. D'ailleurs, vous écrivez même au début, vous avez une sorte d'épiphanie, nous entrons dans la société de la fermentation. Est-ce que c'est si nouveau?
Alors la fermentation, encore une fois, c'est un procédé ancestral qu'on a toujours pratiqué, mais disons que pendant un moment, on l'avait oublié, ou en tout cas, on l'avait moins pratiqué, pour toutes les raisons qu'on connaît, parce qu'on connaît d'autres pratiques de conservation aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que pendant longtemps, on ne savait pas comment fonctionnait la fermentation. Finalement, pendant des siècles, on a fait de la fermentation sans savoir. Et le moment où on a identifié, où on a compris le processus de fermentation, ça a été aussi le moment où on a découvert l'existence connaissance des bactéries et où on a découvert le fait que les bactéries pouvaient être dangereuses. C'est au moment où Louis Pasteur a fait ses études sur la découverte finalement les microbes, les micro-organismes, et il s'est rendu compte à la fois en étudiant la vinification, que des micro-organismes pouvaient mener à la fermentation, et donc à toutes ces choses délicieuses qu'on a toujours mangées et bu, particulièrement en France, le vin, le fromage, etc. Mais il s'est rendu compte au même moment que les bactéries étaient aussi des agents pathogènes, que c'était elles qui nous transmettaient les maladies. Et donc, à ce moment-là, est née à la fois la compréhension de la fermentation, mais aussi une méfiance envers les bactéries et tous les micro-organismes, finalement, qui ont commencé à nous apparaître comme dégoûtants. On a développé à la fois la pasteurisation dans l'alimentaire, mais aussi l'asepsie dans les hôpitaux, l'hygiène, pour des raisons tout à fait valables. Et disons que là, récemment, on a commencé à se rendre compte que, finalement, un excès d'hygiène pouvait être néfaste. On s'est rendu compte que les bactéries n'étaient pas forcément nos ennemis, mais qu'elles pouvaient être nos alliés, voire que l'absence de bonnes bactéries était dangereuse. C'est-à-dire que c'est le fait que nous vivions en symbiose avec le micro-vivant qui nous protège. Si vous avez un déficit de bonnes bactéries dans votre intestin, par exemple, c'est corrélé. Enfin, on s'est rendu compte que le déficit en certaines bactéries dans notre intestin était corrélé à des pathologies et même des pathologies psychiques, comme par exemple la dépression, la maladie d'Alzheimer, etc. Donc, je dirais que c'est une forme de blessure narcissique, comme dirait Freud. C'est-à-dire que finalement, nous avons comme une sorte d'inconscient microbien. La présence bactérienne en nous est si forte qu'elle influence nos états mentaux, qu'elle influence notre vision du monde.
Votre livre, Anne-Sophie Moreau, est passionnant, en fermentation, aux éditions du Seuil, Kéfir, compost et bactéries, pourquoi le moisi nous fascine. Il pose une question presque à chaque page, c'est est-ce que c'est une question de quantité ou de qualité? C'est-à-dire qu'en question très nietzschéenne, pour Nietzsche, tout est quantitatif, donc là on a parfois l'impression, si on vient de vous écouter, qu'en fait il y a des seuils, que si on n'a pas assez de tel type de bactéries, ça va pas, mais si on en a trop, ça va pas, il faut avoir le bon seuil, mais il y a aussi quelques bactéries ou microbes qui sont qualitativement mauvais.
Oui, bien sûr. Alors qualitativement, je ne sais pas, parce que du point de vue de la nature, il n'y a pas de bien ou de mal. Ça, c'est, disons que, par exemple, la différence entre la fermentation et la pourriture, c'est une notion humaine. Voilà, dans la
jugement de valeur.
Dans la nature, il n'y a qu'altération, finalement, du point de vue de la nature, s'il y a un point de vue de la nature. Ce qui est repoussant, dégoûtant ou dangereux, c'est ce que l'homme voit comme repoussant, dégoûtant ou dangereux. Mais pour reprendre votre notion de quantité et de qualité, c'est une notion que je reprends à un certain moment du livre, lorsque je m'intéresse finalement à la notion de régénération.
Oui. C'est un chapitre que j'ai adoré, qui porte pour titre « Le moisi comme régénération du vivant ».
Oui. En fait, je me suis intéressée au fait que, parce que bon, je vous ai parlé de la fermentation, du compost, etc. Mais il y a énormément de domaines dans lesquels on s'intéresse aux micro-organismes. Par exemple, il y a des designers qui essayent de faire des meubles à partir de mycélium, la partie souterraine des champignons, la NASA veut construire des bâtiments sur Mars avec ces mêmes biomatériaux. On a découvert des bactéries qui mangeaient le plastique, on veut utiliser les bactéries pour réparer le béton, etc. Et donc, c'est comme si finalement, on essayait de remplacer notre monde humain, le monde de l'homo faber, de l'homme qui construit, qui érige finalement tous les résultats de notre civilisation par un monde vivant, par de nouveaux matériaux.
Un homo humus.
Un homo humus, tout à fait. Il y a la philosophe Donna Haraway qui dit que nous devons passer des humanités aux humusités, voilà, retrouver le lien avec l'humus, ce sol fécond, fertile et gorgé de bactéries, justement. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est parce qu'on parle aussi, par exemple, d'économie régénérative, l'idée que l'économie devrait non seulement s'abstenir d'abîmer le vivant, mais contribuer activement au renouvellement, à relancer finalement la biodiversité. Et il me semble que dans cette notion de régénération, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, stimulant, en tout cas si on essaye de la comparer à la notion de décroissance qu'on brandit souvent pour pallier la crise écologique. Et pour cela, je fais appel à Aristote, qui fait la distinction entre deux couples, entre plusieurs couples de notions. Aristote, il essaye de définir les différentes formes de changement ou de mouvement, puisque pour lui, c'est la même chose. Et il distingue la croissance et la décroissance qui, selon lui, sont des changements du point de vue de la quantité. Voilà, lorsqu'on parle de la croissance en français, de la croissance du PIB, par exemple, il ne s'agit pas de la croissance des plantes, il ne s'agit pas d'une croissance naturelle. Il s'agit finalement d'une accumulation. On accumule des biens, et lorsqu'on parle de décroissance économique, il s'agit finalement finalement de soustraire. Or, c'est impossible de se représenter la soustraction. Voilà, si vous avez comme projet de société de faire du moins et que vous le présentez aux citoyens, évidemment, ça n'enthousiasme personne, ça ne séduit personne, personne ne veut vivre avec moins. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est que le moins. Le moins, c'est du néant. Si vous êtes philosophe, vous savez que ça ne veut rien dire.
Et donc, on peut penser à la sobriété, à la frugalité avec des valeurs plus positives.
Bien sûr, mais en tout cas, ça reste même la sobriété, ça reste du moins. C'est très difficile à appréhender. Et il me semble que la notion de régénération, elle formule de manière plus stimulante ce que pourrait être un changement de société profond. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qu'Aristote appelle le couple corruption et génération, non pas la corruption au sens politique, hein, mais la dégénérescence, c'est ce qu'il appelle un changement du point de vue de la substance, de la qualité. C'est-à-dire que ça transforme fondamentalement les choses. C'est le changement de la nature, en fait. C'est le fait que des choses naissent, grouillent, vivent spontanément, mais aussi dégénèrent, pourrissent, disparaissent, mais que de là renaît toujours quelque chose de nouveau. Et ça, il me semble que c'est peut-être une voie, en tout cas un paradigme que l'on pourrait chercher à explorer.
C'est ça qui est passionnant dans votre livre, Anne-Sophie Moreau, et une invitation aussi à penser la décroissance à travers l'idée de régénération, ce que vous venez de nous expliquer de façon très brillante. Mais je précise quand même que là vous penchez d'un côté, mais là où votre livre est vraiment philosophique, c'est que vous ne cessez de pencher des deux côtés et d'hésiter. Mmh. Et là on a le côté positif, mais il y a aussi un soupçon, hein, que cette fascination pour le moisi indique au fond quelque chose qui soit en effet un peu pourri. c'était Rita Mitsouko, évidemment, c'est comme ça.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
En fait, pour fabriquer de la bière, les brasseurs font travailler des levures, une sorte de sous-traitance. En effet, avant de produire de l'alcool, les levures commencent par se multiplier. Pour cela, il leur faut de l'énergie. Où la trouvent-elles ? Eh bien, elles la fabriquent. D'abord, elles captent de l'oxygène dissous dans le mou au moment du brassage. Et puis, elles captent également des sucres, glucose ou maltose. Ces deux ingrédients vont réagir ensemble. L'hydrogène, l'oxygène et le carbone vont se recombiner et produire du dioxyde de carbone, le fameux CO2, de l'eau et de l'énergie.
Alors Anne-Sophie Moreau, ça donne envie de bonne bière fraîche, non ?
Oui. Mais paradoxalement, ce n'est pas l'alcool qui intéresse le plus, me semble-t-il, dans la résurgence de la fermentation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe. Il me semble que, l'engouement présent le plus fréquent, il porte plutôt sur des boissons ou des aliments qui sont considérés comme plutôt purifiants, un peu healthy, vous voyez, bon pour la santé.
Bien sûr, ouais.
Il s'agit de nourrir son microbiote, mais aussi finalement d'essayer un peu de cultiver l'éternité en soi. Hein. Le kombucha a été surnommé la boisson de l'éternité.
Le kéfir aussi avait cette réputation, je crois.
Oui, bien sûr, on considère que c'est bon pour la santé.
Et d'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre, je rappelle, Fermentation aux éditions du Seuil, sous-titré Kéfir, compost et bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine ? Ce qui est très intéressant, c'est aussi dans votre livre, et c'est là que vous êtes philosophe, une réflexion sur l'altérité. Déjà, je vous pose une question. Ces bactéries en moi, c'est moi ou c'est des corps étrangers ?
C'est une très bonne question. C'est difficile à dire finalement parce que vous avez un microbiote qui vous est propre, figurez-vous. Dans ce livre, à un moment donné, je raconte une anecdote qui est peu ragoûtante. Excusez-moi, vos auditeurs m'excuseront s'ils sont en train de petit déjeuner, mais je raconte l'histoire d'une étudiante américaine qui s'est amusée à produire du yaourt en utilisant comme ferment ses sécrétions vaginales. Bon, évidemment, ça a fait le buzz, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que dans son interview, elle disait qu'elle avait été fascinée par le fait de pouvoir produire un yaourt, un ferment qui lui était propre. Alors non pas au sens où c'est de la propreté, mais au sens de la singularité de son identité. Et figurez-vous qu'il se trouve que les microbes qui vous peuplent, ça relève d'un héritage microbien, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est à la fois un mélange des microbiotes que vous avez hérité de votre mère avant tout, de vos parents, et puis finalement c'est un mélange aussi de tout ce que vous avez vécu, de tout ce à quoi vous avez été confronté, tout ce que vous avez mangé. Si vous venez de Normandie, vous avez probablement un microbiote influencé et nourri par le camembert et ses microbes, etc. Et donc, en fait, dans l'intérêt, me semble-t-il, pour le micro-vivant, il y a aussi une manière de rechercher son identité, à la fois l'identité du terroir, hein, le terroir finalement c'est ce qui abrite des micro-organismes particuliers, mais aussi une forme d'identité à la fois héritée et narrative, c'est-à-dire finalement ces microbes qui sont la trace, qui sont le signe de ce que nous avons été, une forme de singularité par les tripes.
Exactement, c'est la fin de votre chapitre qui s'appelle « Je est un hôte, fermentation et identité » et vous concluez ainsi « Singularité par les tripes ». Mais vous, Anne-Sophie Moreau, vous avez l'impression que votre singularité, elle est davantage dans la nature même de votre microbiote plutôt que dans vos idées, votre façon de parler, votre silhouette.
Bien sûr, on pourrait se poser la question. Il se trouve que les microbes influencent, comme je vous l'ai dit, influencent aussi la manière dont nous pensons. Donc j'espère évidemment que nous pouvons en partie nous libérer de cette emprise microbienne. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez vertigineux dans cette question de savoir qui nous sommes finalement, à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce. Voilà, il y a des micro-organismes qui sont propres à l'espèce humaine. Il y a aussi des micro-organismes et aussi il y a aussi des animaux qui ne peuvent pas survivre sans nous. Figurez-vous que sur votre visage, par exemple, vous avez des acariens qui ne pourraient pas survivre sans l'homme. Voilà, donc sachez que si l'espèce humaine s'éteint, ces acariens aussi. Et il me semble que la question qui se pose, c'est finalement, c'est qu'est-ce que l'espèce humaine ? Est-ce qu'elle est finalement séparée du reste de la nature ? Est-ce que ça a du sens de nous penser comme séparés du reste de la nature ? Ou bien est-ce que nous ne serions pas tous ce que certains penseurs appellent des holobiontes, c'est-à-dire finalement une symbiose entre différentes espèces, et finalement où il est absolument impossible de déchiffrer, de délimiter, de distinguer qui est quoi et qui est séparé de l'autre.
C'est très intéressant. D'ailleurs, ça va très loin. Et dans cette réflexion sur l'altérité, vous avez dit au début de l'émission, j'avais un peu relevé une empathie pour les microbes. Alors nous, dans, sous le soleil de Platon, on évolue, puisque on avait déjà reçu François Lasserre, qui nous avait invité à avoir de l'empathie pour la mite ou pour le moustique. Là, avec vous, on va encore plus loin. Il faut cette fois avoir de l'empathie pour les microbes et pour les bactéries. Il y a quelque chose de politique, et c'est la deuxième dimension de l'entretien que je vous propose, et c'est ce que j'ai adoré dans votre livre. Est-ce que finalement, ça nous dit que politiquement, on aurait tout intérêt à accueillir la différence en soi, à cesser la crispation identitaire et à s'ouvrir à l'altérité? Ou alors, et c'est ça aussi le balancement de votre livre, est-ce que ça ne nous invite pas à être dans un entre-soi un peu moisi qui serait au fond un peu identitaire?
Oui. Alors, il y a une pensée très intéressante que je suis allée retrouver chez Claude Lévi-Strauss, qu'on connaît souvent pour son opposition entre le cru et le cuit, hein, c'est le titre d'un de ses livres, et on oublie souvent que Lévi-Strauss, il esquissait ce qu'il appelait un triangle culinaire, donc entre le cru et le cuit, mais aussi avec un troisième pôle qui s'intitulait le pourri, et pourri qu'il reliait au bouilli et au fermenté. Pour lui, c'était, on va dire, la même tendance. Et Lévi-Strauss, il remarque que on sert, par exemple, de la nourriture rôtie aux étrangers, aux gens de passage, aux personnes extérieures, à la famille, à la tribu, ce qu'il appelle de la nourriture exogène, tandis qu'on a tendance à réserver le bouilli, le pourri, le fermenté, aux membres de sa propre famille, aux membres de sa propre tribu, ce qu'il appelle de la nourriture endogène. Et en y réfléchissant, je me suis posé la question de ce que signifiait finalement tout un tas de petites tendances qu'on observe aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, à Paris, il y a des bouillons qui ouvrent, voilà, où on retrouve la nourriture traditionnelle. Il y a de grands chefs cuisiniers qui font des bouillons. Par exemple, Noma, qui a été élu meilleur restaurant du monde pendant des années, un restaurant à Copenhague, fait des bouillons, voilà. Alors qu'avant, un chef, il faisait des pièces montées, que sais-je, il construisait des choses. Maintenant, on fait bouillir, on fait fermenter des matières visqueuses. Et donc, c'est étonnant. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que ça veut dire, finalement, que nous considérons que nous avons besoin de retrouver une forme de cocon familier? Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes forcément d'odieux racistes et que nous refusons l'altérité, mais est-ce que ça ne veut pas dire que nous sommes finalement en train d'essayer de retrouver une forme d'autonomie, voire d'autarcie? Voilà, chez les gens qui font de la fermentation, qui font des légumes en bocaux, il y a aussi l'idée que je dois survivre aussi en cas de pénurie. Ce sont des gens qui ont été beaucoup marqués par la crise du Covid, mais aussi par la crise écologique, par la perspective du retour des guerres, des blackouts électriques, etc. Et donc, il y a aussi l'idée, finalement, la tentation de vouloir vivre en autarcie, de vouloir finalement faire macérer son jardin au lieu d'aller lutter dans le grand monde. Et donc, je m'interroge sur cette tendance. Voilà, je me dis, est-ce que finalement, c'est pas aussi une forme de... une tentation de retrait du monde, finalement, assez pessimiste?
C'est ça, et c'est la question que vous posez, qui est très belle sur le plan politique. C'est aussi une réflexion sur le capitalisme. Est-ce que c'est un capitalisme qui pourrait se régénérer, ou est-ce qu'au fond, il va falloir passer à un autre régime? Je vous propose d'écouter justement une belle réflexion sur le rapport entre peut-être l'émergence de quelque chose de nouveau et les ruines du capitalisme.
Matsutake mushrooms have the special trait of growing in very difficult places.
Les matsutake ont pour caractéristique de croître dans des endroits très ingrats, très arides.
Where there are a lack of nutrients,
des lieux apparemment peu accueillants qui manquent cruellement de nutriments. Et ce champignon, le matsutake, aide les arbres à pousser sur ces terrains difficiles en enchevêtrant leurs racines et en rassemblant pour l'arbre des nutriments, de l'eau, afin que l'arbre puisse pousser. Donc, même dans des lieux où l'industrie ou les activités humaines agricoles, industrielles, ont introduit de grandes perturbations, des destructions, eh bien, on trouve encore des matsutake qui poussent dans ces lieux dévastés. Donc, on s'interroge effectivement, et ça nous fait penser à qu'est-ce qui peut encore pousser sur les ruines du capitalisme.
Alors Anne-Sophie Moreau, qu'est-ce qui peut encore pousser sur les ruines du capitalisme?
Oui, alors nous venons d'écouter d'un extrait d'Anna Tsing, hein, je suppose, sur les champignons de l'Apocalypse, un livre évidemment qui m'a beaucoup inspirée. Alors qu'est-ce qui peut pousser sur les ruines du capitalisme? La question, c'est ce que nous souhaitons faire pousser sur les ruines du capitalisme. Mais dans ce livre, je m'interroge aussi sur on va dire, une tentation d'une forme de déclin quasiment auto-administré ou fantasmé. Je m'intéresse aussi beaucoup à d'autres formes de déréliction que sont, par exemple, notre attirance pour les ruines. Vous voyez, le phénomène de l'urbex. J'ai beaucoup d'amis qui aiment aller visiter. J'ai vécu à Berlin, donc j'ai vu beaucoup de gens visiter des ruines industrielles sur lesquelles repousse une végétation grouillante. Dans Paris, par exemple, on installe des champignonnières dans des parkings. Il y a un plan MAR dans Paris, c'est-à-dire pour réintégrer des milieux humides qu'on considérait comme repoussants avant. On met des murs végétaux sur les surfaces des maisons. On imagine qu'on va pouvoir finalement recouvrir notre civilisation de mousse, de lichen, d'une forme de végétation qu'on pourrait appeler rudérale, c'est-à-dire une végétation qui pousse après les ruines. Et je m'interroge pour cette fascination pour une nature post-ruine. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit de nous ? Alors, d'une part...
Et peut-être aussi post-capitalistique.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous ? Que d'une part, nous considérons que les bactéries sont plus fortes, ou les bactéries, ou les champignons, ou les micro-organismes sont plus forts que nous, qu'ils nous survivront. C'est ce que dit Björk dans une interview à propos de son dernier album, qui est Fossora, qui est entièrement dédié à ces créatures de l'humus. Est-ce que ça veut dire que nous fantasmons cette survie des bactéries après nous? Il y a aussi la série The Last of Us, dont vous avez peut-être vu, cette série où des champignons prennent possession de la ville, de la civilisation, mais aussi de nos corps. Ils viennent zombifier l'humanité. Il y a aussi le phénomène de l'idée de s'auto-composter après sa mort, la pratique de l'humusation qui n'est pas autorisée en France, mais qui l'est aux États-Unis ou en Allemagne. C'est-à-dire que ça consiste finalement à vouloir composter son corps au lieu de le mettre dans un cercueil étanche ou bien de s'incinérer.
C'est ce que vous dites dans le livre, que ces pratiques surprenantes, elles émergent plus sur des terres d'hygiénisme radical des
Bien
années
sûr.
Passées. C'est étonnant. Comme
Bien
une
sûr.
Réaction.
Voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois une réaction à un hygiénisme qui est peut-être allé trop loin, mais c'est aussi finalement l'idée selon laquelle notre espèce, l'espèce humaine, serait elle-même une espèce invasive qui a tellement abîmé le vivant. C'est lié à une culpabilité, à l'idée que notre société capitalistique aurait trop construit, aurait trop recouvert, aurait trop artificialisé la surface de la Terre, et que donc il faudrait revenir aux origines de la vie, les bactéries
dont on sait... À ce qui grouille, à ce qui fermente, à ce qui est dans la mare, à ce qui moisit. Mais dans quoi
cette soupe primordiale de laquelle devrait renaître la vie. Et donc la question, c'est de savoir si nous cherchons finalement à contribuer à une renaissance de la vie dans laquelle nous serons aussi présents, nous aurons aussi un rôle, ou bien est-ce que nous ne fantasmons pas aussi carrément la disparition, voire la dissolution de l'humanité dans un vivant grouillant et dans un avenir où nous serions absents.
Alors je vous lis, Anne-Sophie Moreau, pour qu'on comprenne que, contrairement à la question que vous venez de poser, en fait, vous penchez d'un côté, du moins vous avez votre cœur quelque part, je vous lis. Donc c'est la fin de votre livre, c'est vers la fin, je ne spoile pas, Fermentation, aux éditions du Seuil, Anne-Sophie Moreau. Apprendrons-nous à nourrir les ferments de la révolution ? Ou bien stagnerons-nous dans une société close qui, à force de ne plus croître, finira par ne plus croire en rien ? Pour reprendre les mots d'un personnage de Simone de Beauvoir dans Les Bouches inutiles, son unique pièce de théâtre, choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir. Sans cet élan qui nous porte en avant, nous ne serions rien de plus qu'une moisissure à la surface de la Terre. Ayant été élevé par un grand dépressif, j'ai toujours vécu dans une tension permanente entre deux attitudes possibles face à l'existence. L'abandon mortifère et la nécessité de vivre. Pour certains, la joie d'être là est une évidence. Pour d'autres, elle ne l'est pas. S'émerveiller de la beauté du monde relève de l'effort, se lever le matin, de l'épreuve. En écrivant ces pages, j'ai été traversé par ces courants contraires que sont l'élan vital et le découragement. J'ai appris avec horreur le suicide d'un ami emporté par la désespérance. J'ai aussi accueilli une vie nouvelle qui, nonobstant mes penchants pour les forces destructrices, a surgi dans les replis de mes entrailles. À la corruption succède toujours la génération, dirait Aristote. Parfois, renouer avec le moisi permet de se réconcilier avec la vie. C'est ce que je nous souhaite. Donc on comprend que finalement, après avoir problématisé de façon équilibrée, vous penchez d'un côté.
Bien sûr. J'ai toujours oscillé entre, on va dire, une tendance, la tendance à laisser tomber, à jeter l'éponge, finalement, à se laisser aller à cette dépression que je crois identifier à l'échelle de l'espèce humaine aujourd'hui, qui correspond aussi à des mouvements, à des tendances sociétales observées. Hein, voilà, le mouvement des incels, par exemple, qui ont pour slogan « lay down and rot », s'allonger et pourrir, le « bed rotting » aux États-Unis, voilà, rester dans son lit, pourrir, ne rien faire, scroller toute la journée, ou le tangping en Chine, voilà, tous ces jeunes qui finalement renoncent dans un monde désespérant à agir, à se relever, à lutter. Et donc j'ai toujours été tirée entre cette tendance-là et l'envie finalement, le besoin aussi de se relever, de prendre ses responsabilités, d'agir tout simplement.
Ce qu'il faut quand même dire, c'est que vous avez donné vie à un enfant dans la période d'écriture de ce livre.
Oui, c'est vrai. Oui, et évidemment, un enfant vous rattache à la vie, vous ramène immédiatement à une vie qui n'est pas seulement une, on va dire, une dégénérescence grouillante, mais une personnalité affirmée.
C'était Au Bon Jaillard, Sweet Danger.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Anne-Sophie Moreau et nous parlons de votre livre, Anne-Sophie, Fermentation. Nous parlons de la vie aussi. Est-ce que la vie, c'est ce qui se régénère en pourrissant? Ou est-ce que la vie, quand elle pourrit, elle ne fait que pourrir? D'ailleurs, on parle d'une situation qui pourrit, par exemple. On dit laisser pourrir une situation. Vous en pensez quoi de ça?
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que il y a une polysémie de la pourriture, de la dégénérescence en politique notamment.
Ouais.
C'est-à-dire que si vous regardez la littérature, alors déjà les Grecs parlaient de la corruption nécessaire des régimes politiques, par exemple la démocratie est condamnée à dégénérer en tyrannie, etc. Mais aussi au XIXe siècle, on voit beaucoup revenir ce vocabulaire, à la fois surtout dans la pensée réactionnaire plutôt ouais. de droite. droite, voire d'extrême droite, mais aussi chez Zola, chez Marx, voilà, où tout pourrit finalement, la ville, la bourgeoisie, etc. Et la question, c'est qu'est-ce qui renaît de tout cela, puisqu'on peut à la fois considérer une société comme étant en déclin, en décadence, voilà, avec des gens comme Oswald Spengler qui considèrent que toute culture est condamnée à dégénérer, à pourrir, et en général avec l'idée que c'est souvent l'étranger, le parasite introduit dans le corps social qui amène ce corps social à s'autodétruire finalement.
Oui, vous avez un chapitre, l'étranger, ce parasite.
Oui, voilà. Mais en même temps, on peut aussi voir autrement cette pourriture et se dire on parle aussi par exemple des ferments de la révolution.
Oui.
Lorsqu'on s'interroge finalement sur ce qu'est une pensée en fermentation, pour reprendre une expression employée par Hegel. C'est la pensée, chez Hegel c'est assez, on va dire c'est un peu, Hegel il n'est pas très fan de la pensée en fermentation, il voit ça de manière un peu négative, c'est la pensée qui n'est pas encore capable de s'exprimer, voilà. Mais finalement ces états fermentatifs, ce sont des états pré-révolutionnaires, vous voyez, où il n'y a pas encore d'idéologie claire, il n'y a pas encore d'utopie qui s'est clairement formulée, mais où l'on sent tout de même que la société est en ébullition, qu'elle est prête à accoucher de quelque chose de nouveau. Et moi je m'interroge sur l'état de notre société aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes finalement une société en dégénérescence, ou bien est-ce que nous sommes une société finalement où tout bouillonne, où tout grouille, où c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, on a l'impression que chacun est dans sa bulle, mais où finalement naîtront peut-être aussi de nouveaux idéaux et la société de demain.
Anne-Sophie Moreau, je voudrais faire une objection philosophique. Pour l'instant, vous nous présentez deux options. Soit la pourriture entraînée vers le bas, la décadence, le moisi, quoi. Soit la pourriture est l'occasion, par la médiation d'une fermentation, d'une régénérescence. Mais on pourrait aussi penser qu'on progresse sans passer par la phase moisie, avec l'élan vital bergsonien, avec la philosophie vitaliste de Nietzsche. Mmh. Dans ce cas-là, on produit des formes nouvelles et la vie se régénérerait sans avoir besoin de l'étape moisie et pourrie.
Oui, c'est une bonne question. Alors, on pourrait dire finalement qu'en philosophie, il y a peut-être deux grandes branches. Finalement, les hégéliens, finalement, ceux qui pensent que voilà, tout fonctionne par cycle, et ceux qui considèrent finalement que la vie, les hommes et les sociétés peuvent être portés par une tension. Sloterdijk dirait une tension verticale, voilà, une force affirmative ininterrompue. Je dirais que c'est une question de point de vue, mais moi, il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre société, on voit tout de même que l'élan vital semble assez abîmé.
Macéré un petit peu.
Voilà, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans un moment où les gens ont tendance à désespérer, on a l'impression qu'on est dans une société vieillissante, qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut arroser l'économie de liquidités, comme le fait la Banque centrale, mais que cela ne suffit pas finalement à la régénérer, à faire renaître l'énergie.
Ça.
Et donc, comment retrouver l'énergie? Comment retrouver la force vitale?
Comment sortir du bouillon, du ressentiment.
Oui, je pense que c'est une question fondamentale. Oui, vous nommez le ressentiment, qui est une notion très nietzschéenne pour le coup. Finalement, l'homme du ressentiment, c'est aussi celui qui macère dans ses regrets, dans tout ce qu'il n'a pas, qui ressasse ce qu'il n'a pas réussi à faire, qui mastique, remastique, cuit et recuit sa haine, et qui, à force de s'en vouloir à lui-même, finit par en vouloir aux autres, de ses propres échecs. Et ce qui était intéressant, c'est que chez ce même Nietzsche, on retrouve aussi ailleurs une autre pensée, finalement, de la fermentation,
de la digestion
digestive. Puisque Nietzsche, il critique à la fois l'homme du ressentiment qui macère dans ses regrets, mais en même temps, il dit que toute bonne pensée, toute philosophie doit consister à ruminer ses pensées comme une vache, et que c'est dans la rumination, que c'est de la rumination aussi que naîtra une énergie nouvelle.
Alors, à la fin, vous accablez beaucoup Sartre. Dans La Nausée, Jean-Paul Sartre dit sa terreur face au retour possible d'une végétation envahissante dans la ville minérale. Un philosophe, et non des moindres, exprime son dégoût de la nature. Un peu plus loin, plus je relis La Nausée, plus je suis frappé par la métaphore digestive, mais au sens négatif, cette fois à l'œuvre dans son roman. Son titre, sans équivoque, est à entendre au sens propre. L'asthénie qui saisit le binoclard de la rue d'Ulm est d'abord provoquée par un dégoût pour la nourriture, par un dégoût pour la pourriture. Vous l'aimez pas beaucoup, Sartre?
Oui et non. Alors effectivement, je le charge un peu dans la conclusion, mais disons que je m'en moque avec tendresse parce qu'il m'inspire beaucoup néanmoins. Effectivement, je trouve que lorsqu'on relit Sartre aujourd'hui, on s'étonne finalement du dégoût qu'a ce grand philosophe pour le végétal.
Même pour le corps.
Oui, et pour le corps en général. Ouais. Mais disons aujourd'hui dans une société qui est à tendance plutôt écologique, on aurait tendance à croire que tous les philosophes vont aller embrasser le vivant, la nature, les plantes, etc. Et Sartre, lui, il dit non, il faut rester dans les villes parce que il n'y a rien de plus dégueulasse que la végétation. Il a peur. Il dit nous, on doit rester.
Il est pas bien, franchement. Il a un problème.
Il dit on doit rester auprès des étangs les moins inquiétants que sont les minéraux. Voilà. Donc Sartre, quand on lit ce texte, quand on lit La Nausée, on a l'impression que finalement il aurait été bien mieux à la Défense, vous voyez, que dans un parc. Il regarde cette racine de marronnier et il est dégoûté par l'humus, en fait, par la terre, par les microbes. Et on l'entend, il parle aussi, voilà, il est dégoûté par ses propres sécrétions, par sa salive, par tout ce qui est visqueux. Et c'est vrai que lorsqu'on le relit aujourd'hui, on se dit, mais le pauvre, pourquoi est-ce qu'il ne sait pas finalement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas... C'est comme si finalement il était dégoûté par le réel qu'il compare finalement à une forme de sécrétion visqueuse. Le monde dans son ensemble est dégoûtant.
Imagine une scène de théâtre où Anne-Sophie Moreau, vous allez proposer à Sartre un verre de kombucha.
Oui.
Et là, il ne veut pas le boire.
Oui, mais finalement, et ce qui m'intéresse tout de même chez Sartre, c'est qu'à la fois, je trouve que ça l'aurait sans doute aidé, ce pauvre Jean-Paul, finalement, à embrasser la vie. Il aurait peut-être pu aussi tout simplement prendre un space-fond, vous voyez, ou du bicarbonate de soupe pour régler ses problèmes digestifs.
Parmi les plus belles pages du XXe siècle.
Voilà, pour régler ses problèmes digestifs, au lieu finalement de s'en prendre ainsi au réel. Mais en même temps, je retrouve chez Sartre, et dans les pages de conclusion que vous avez citées, je lui donne aussi une certaine importance, on trouve aussi chez Sartre cette idée selon laquelle nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas finalement nous laisser aller à l'entropie, à la pourriture du monde, et que nous devons, voilà, lorsqu'il dit l'existence précède l'essence, nous devons toujours nous retrouver dans l'action, prendre nos responsabilités, nous élever au-dessus du réel. Voilà, quand bien même aujourd'hui, on aurait tendance à nous dire que l'homme ne doit plus, ne peut plus s'élever au-dessus de quoi que ce soit, eh bien si, nous avons tout de même encore la responsabilité d'agir et de lutter, de faire en sorte de faire advenir un monde nouveau.
Et d'ailleurs, pour rendre hommage à Sartre, il a une critique de l'identité figée, mortifère, à travers le personnage très drôle de ce docteur Roger, qui justement est un notable de province, qui fait des grands festins trop gras, avec de la choucroute sûrement d'ailleurs, donc de la choucroute fermentée. Et puis, il est gonflé de son importance, et Sartre le décrit en disant, voilà, regardez, le pauvre docteur Roger, il tombe lentement dans l'enflure de l'être. Et quelque part, ces accents-là, vous les retrouvez dans votre critique de l'identité, et finalement, vous allez chercher les bactéries, les microbes, pour tous ces petits éléments, pour dire que la vie, c'est une identité qui s'ouvre à l'autre, au petit, au différent, à l'altérité.
Oui.
Et donc là, vous retrouvez quelque part la critique sartrienne de l'identité, en fait.
Oui, bien sûr. Je vous ai dit qu'avec Lévi-Strauss, on pouvait voir le pourri, le fermenté comme une forme de fermeture à l'autre, ou bien en allant chercher dans la rhétorique réactionnaire, voire d'extrême droite, cette idée selon laquelle c'est le parasite, l'étranger qui amène le pourrissement du corps social. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'en lisant les discours de militants de la fermentation, parce qu'ils existent, parce que figurez-vous qu'il y a des militants de la fermentation dans le monde entier, notamment dans les pays anglophones, aux États-Unis, au Canada. Et chez ces militants de la fermentation, on trouve parfois des formulations très théoriques et très engagées de leur rapport aux microbes, et où il y a au contraire une défense de l'altérité, justement de l'ouverture à la diversité que symboliserait la pratique de la fermentation. Et je cite notamment une chercheuse en sciences politiques qui a écrit un essai qui s'appelle, ça s'appelle Stéphanie Fischel, et elle a écrit un essai qui s'appelle L'état microbien. Bien, et où finalement elle dit, regardez, nous savons désormais que le corps est poreux, qu'il a besoin des bactéries, et bien de même, le corps social, l'État-nation, qu'on a toujours considéré comme quelque chose qui devait être fermé, étanche, doit s'ouvrir à l'autre, doit s'ouvrir à l'altérité, non seulement pour survivre, mais pour être plus fort.
Eh bien voilà une belle promesse d'avenir, on a compris de quel côté vous penchez. Anne-Sophie Moreau, c'était passionnant de vous recevoir ce matin sous le soleil de Platon, qui fut aussi un peu celui de Nietzsche, de Sartre et de Pasteur, qui a beaucoup parlé de la fermentation. Alors votre philosophie, on l'a entendu ce matin, c'est une philosophie d'abord phénoménologique. Vous commencez par observer, je vous lis, « Je me suis surprise un jour à contempler avec fascination des restes gâtés de nourriture oubliés dans mon réfrigérateur. » Et à partir de là, vous avez pensé et vous avez été tiraillé entre d'un côté le désir de vie et de vivant qui s'exprimerait dans ce milieu qui mijote et qui fermente, et de l'autre côté, évidemment, la pulsion de mort qu'on sent aux aguets, qu'on sent qui guette, dans ce cas-là, la pourriture devient une décadence et une fermeture. Mais vous nous avez invités, et c'était une très belle invitation à l'ouverture, au tout petit, au différent, à l'altérité. Merci beaucoup, Anne-Sophie Moreau.
Merci à vous.
Et je recommande votre livre « Fermentation » aux éditions du Seuil. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumaise, à la programmation musicale Valentine Chudebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique Gaspard Guy Bourget.